France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, bienvenue à Gérard Jugnot, actuellement à l'affiche du Théâtre des Nouveautés dans La Raison d'Aimer. Il publie également Dictionnaire de ma vie, une façon de se raconter sujet par sujet, et l'occasion pour nous de raconter Jugnot en musique, des bronzés aux choristes, et à l'accordéon Musette de Faubourg 36 en fin d'émission. Serge Laïc nous dira tout de Paul Moria, un de ses chefs d'orchestre arrangeurs qu'il connaît sur le bout des doigts, mais plongeons pour commencer dans la nuit parisienne et ses reines oubliées. Aux voix ensorcelantes.
Au hasard de leur long voyage, les matelots des grands bateaux abordent aux souriants rivages et sur les langoureuses plages auprès des flots. Les matelots oublient l'angoisse des orages, donne ta main, femme aux yeux de gazelle, de ta tendresse, mon cœur a faim. Donne tes seins, maîtresse ardente et belle, donne l'ivresse, je repars demain. Au hasard de leur long voyage, les matelots des grands bateaux quittent les souriants rivages pour affronter les vents d'orage. Et sur les flots, les matelots oublient les langoureuses plages. Tends-lui la main, femme aux yeux de gazelle, de ta caresse, son corps a faim. Mais garde bien, garde ton cœur, ma belle, car son ivresse est son lendemain. Garde bien, garde ton cœur, ma belle, car son ivresse est en lendemain.
Vous avez reconnu évidemment la voix grave de Suzy Solidor qui, toute femme qu'elle était, adorait chanter des chansons de marins. Ici, Suzy Solidor avec l'orchestre de Georges Briès dans Nuit Tropicale. Suzy Solidor qui est l'un des personnages du film que vous pourrez découvrir demain soir sur Arte, La Nuit est à elle, un hommage à toutes les chanteuses de cabaret de l'entre-deux-guerres, Gaby Delis, Miss Tinguette, Joséphine Becker, Marianne Oswald et Suzy Solidor. Un beau film que je vous recommande, c'est demain à 22h40 sur Arte.
Thank you.
oui, en ce moment, j'aime bien les galops le matin. Et celui-ci est signé Johann Strauss, père. Il s'appelle Furioso. C'était au cours du concert du Nouvel An 1999, sous la direction de Laurine Mazel. Et oui, ça approche le prochain concert du Nouvel An cette année. C'est le grand Christian Thielemann qui dirigera l'Orchestre Philharmonique de Vienne.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Mais nous avons rendez-vous maintenant avec un acteur que vous connaissez, que vous aimez tous au théâtre ou au cinéma. Et pourtant, mais bien, la musique a joué un certain rôle dans sa vie et d'ailleurs notamment dans ses très grands succès que furent notamment Les Choristes ou encore Faubourg 36. Aujourd'hui, il publie un dictionnaire de ma vie où il nous dit tout sur lui-même et sur ce qu'il aime justement. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gérard Jugnot.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.
Bonjour Gérard Jugnot.
Bonjour.
Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que vous avez joué beaucoup de films qui évoquent les années 30, 40, 50? Quand je vous ai invité, il m'a paru évident qu'il fallait commencer par cette chanson. Je ne sais pas si c'est un bon choix pour lui, le petit bal perdu.
Oui, j'adore cette chanson. C'est vrai que c'est une chanson qui parle de l'après-guerre. Et, ouais. Et je disais hors antenne là, que j'adore les chansons quand elles racontent une petite histoire, comme ça en 3 minutes, ouais. Quelques vers. Espèce de choses comme ça qui raconte une tristesse, une nostalgie, puis souvent on s'aperçoit que il parle de lui quoi en une phrase et c'est assez fort cette simplicité.
Oui, c'est oui un petit chef-d'œuvre on peut le dire, mais moi je perçois aussi comme une espèce de cousinage entre vous et Bourvil, entre l'acteur Bourvil et l'acteur Jugnot, entre les personnages que vous avez incarnés. Dans le livre que vous venez de sortir, le dictionnaire de ma vie, il y a tout un article sur la bravitude et vous parlez de ces braves types dont on s'est
sais pas s'ils vont finalement bien ou mal tourner, qui sont un peu ambigus. Il y a souvent ça chez Bourvil aussi, non?
Oui, oui, l'héroïsme est une chose qui m'a toujours tracassé, enfin, ouais. Interrogé. Savoir comment on peut un jour décider d'être un héros, je crois qu'on décide pas. C'est, je crois fondamentalement que c'est le vécu qui vous fait basculer d'un côté ou de l'autre. Et c'est souvent ça que j'ai écrit dans les films que je réalisais moi. Ouais. Comment on peut tomber d'un côté ou de l'autre, du bon ou du mauvais côté. Je crois que c'est pas simple.
Et l'ambiguïté, elle est souvent chez lui, n'est-ce pas, mm-hmm. chez Bourvil, dans La Traversée de Paris.
Oui, absolument. Il y a un film formidable qui s'appelle Les culottes rouges d'Alex Joffé où il fait un personnage extrêmement glauque, ambigu, et qui finalement se révèle être mieux que le vrai héros. Quoi. Oui, moi j'aime bien, je défends mon bout de gras, hein, si vous voulez, je défends mes personnages.
Mais il peut faire des vrais salauds, et ces salauds sont assez noirs, alors que les salauds de Funès nous font toujours rire. Il y a quand même une différence.
Mais De Funès, il a jamais voulu être dans l'émotion, à aucun moment.
C'est ça.
C'est étonnant. Même Gérard Horry, qui a beaucoup fait de films avec lui, m'expliquait qu'il avait beaucoup de mal à lui demander des moments de tendresse, d'émotion. Quand il devait remercier Bourvil, qu'il avait sauvé dans la grande vadrouille, ils ont fait 20 prises pour qu'il finisse par dire bon merci. Ça lui a arraché la gueule d'être émouvant. Et alors que Bourvil, lui, a beaucoup cultivé ça. Et moi, j'aime bien les deux. Alors, ce qui fait
mais
que
vous aimez bien que vos salauds aient un peu de cœur. Quand même. Vous n'aimez pas les salauds.
Ouais, j'aime pas ça.
Vous les jouez pas d'ailleurs.
J'ai une espèce de naïveté qui me fait croire que les gens peuvent pas être des vrais salauds, quoi. Bon, alors après, c'est compliqué quand on est un acteur. Je ne sais pas si je pourrais jouer Fourniret ou Adolf Hitler, mais voilà. C'est compliqué.
Oui, quand on est artiste, faut faire tous les genres, comme disait Bourvil.
Oui. Mais c'est Bourvil, il a joué des belles ordures hein, quand il jouait dans Les Misérables. Il a fait un Thénardier assez crédible.
Extraordinaire, Thénardier. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin sur France Musique, Gérard Jugnot. Je sais que vous adorez la musique, on va en parler, mais vous venez de sortir surtout le dictionnaire de ma vie, voilà, le principe de l'abécédaire, où vous parlez de vous à travers des articles sur un tas de sujets qui vous racontent eux-mêmes. Alors voilà, ça, c'était comme ça, une envie de faire un point, un
non,
bilan.
Non, j'avais pas forcément cette envie, mais j'avais écrit il y a 2-3 ans.
Un livre sur le splendide.
Un livre sur le splendide, sur mes années, sur ma jeunesse et les années splendides, parce que j'avais vraiment envie. J'entendais tellement de choses fausses ou idiotes, que j'avais eu envie de rassembler les souvenirs tant que les mémoires tient pour mon fils, pour mon petit-fils.
Oui, ça va, vous avez encore un peu de temps.
Pour essayer de... Oh, on n'est pas à l'abri de ça, mais ce que je veux dire, c'est que... Et ça m'a d'ailleurs passionné d'écrire. Alors, je l'avais écrit tout seul avec mes petites mains, comme ça, j'ai mis assez longtemps. C'était quelque chose d'assez chronologique. Et ça s'arrêtait à la fin du Splendide, même si on a retourné ensemble.
Oui, quelques années.
Ça s'arrêtait à Papy, quoi. Ouais. Et là, on m'a proposé, c'est Luc Lariba avec qui j'ai fait ce bouquin, qui m'a proposé cette collection que je connaissais.
Excellente collection, d'ailleurs. Oui, je crois que Louis Chédid était venu parler d'un
livre. Oui, il y a Chédid et Moretti. Ça, Le Comte, on a fait
un... Oui, Le Comte aussi.
Et c'est un exercice assez marrant. Alors là, on a procédé, c'est-à-dire qu'il m'a interviewé beaucoup, on a cherché ensemble les entrées, et puis une fois qu'il a fait tout ce travail de décryptage, je me suis mis à écrire vraiment, c'est moi qui ai vraiment écrit tout, et ça m'a fait plaisir. En plus, c'était très amusant, c'est parce que c'est des petites tranches de 4, 5, 10 pages, où vous pouvez raconter
très autrement. Agréablement, d'ailleurs.
C'est très agréable à lire, vous pouvez lire ça n'importe où, sur une table de chevet ou dans le train, et vous n'êtes pas obligé de le lire dans l'ordre, il n'y a pas de... Et c'est très amusant à faire, et j'espère amusant. À lire.
On va y revenir à travers quelques articles et puis tout en racontant un petit peu quelques moments de votre vie en musique. Eh bien, on va parler d'ailleurs des musiques de votre enfance, mais j'ai choisi une musique qui est peut-être plutôt de votre adolescence ou de vos 20 ans et que je crois vous aimez bien.
Suffit-il donc que tu paraisses de l'air, que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse un monde habité par le chant, Elsa mon amour, ma jeunesse. Eau forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim de vivre encore et de connaître notre histoire jusqu'à la fin. Ces miracles que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi le vent se joue, toujours si je te vois, je tremble, comme à son premier rendez-vous, un jeune homme qui me ressemble. pour la première fois ta bouche, pour la première fois ta voix, d'une aile à la cime des bois, l'arbre frémit jusqu'à la souche. C'est toujours la première fois quand ta robe en passant me touche. Ma vie en vérité commence le jour où je t'ai rencontré, toi dans les bras on sut barrer sa route atroce à ma démence. Et qui m'a montré la contrée que la bonté seule ensemence. Tu vins au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres, et j'ai flambé comme un genièvre à la Noël entre tes doigts. Je suis né vraiment de ta lèvre, ma vie est à partir de toi. Suffit-il donc que tu paraisses de l'air, que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, elles a mon amour, ma jeunesse.
Je vois, Gérard Jugnot, qu'on est d'accord pour dire que c'est un des chefs-d'œuvre de la chanson française, l'album Aragon Ferré.
Absolument. Et puis, je trouve que le texte et la musique sont formidables, l'interprétation. Puis, ce texte est d'une beauté absolue. C'est ouais. La plus belle chanson d'amour qu'on ait écrite.
Alors, vous écoutiez ça à 15-16 ans?
Oui, j'étais.
En fumant la pipe.
Oui, donc j'étais très. On se vivait un peu comme des artistes, un peu. Ouais. Un peu marginaux. Donc, j'avais une espèce de bouc avec mes trois poils qui poussaient, mes trois cheveux que j'arrivais même pas à peigner. Puis, je fumais des Celtiques. Comme
les Celtiques, pardon,
comme,
pas la
comme Léo Ferré, c'était infumable. Non, les Boyard Maïs, oui, c'est une horreur. Et bon, ben, j'avais un Solex peint en mauve que j'avais appelé Malek, en hommage à Buster Keaton. Enfin bon, voilà.
Vous étiez anarchiste.
Oui.
Vous vouliez déclarer anarchiste.
J'étais un peu en révolte contre ma famille. J'avais écrit un grand dans ma chambre. On choisit ses amis, on subit sa famille.
Ah voilà, ça devait leur faire plaisir.
À mes parents. Mais bon, voilà, il faut bien que jeunesse se passe. Comme
alors, d'ailleurs, en remontant plus loin, et notamment à travers votre dictionnaire de ma vie, j'ai vu que vous aviez, alors plus jeune, enfant, écouté, tiens, quelqu'un qui est venu encore il n'y a pas longtemps dans cette émission, un homme merveilleux, ça c'était à la radio, monsieur Zappy Max.
Oui, mais je l'ai rencontré, Zappy Max, il y a quelques temps, je crois qu'il est encore de ce
moment. Oui, oui.
Et c'est vrai que moi j'écoutais Radio Luxembourg avec mes parents, on n'avait pas la télé à la campagne, et on écoutait C'est parti mon Zappy.
Voilà.
Ce qui était sponsorisé par la lessive Sunil, je me souviens de ça. Il y avait le tonneau, un espèce de personnage, c'était un truc à la Francis Blanche. Ça n'en finissait pas, je crois que ça devait être le 1403e épisode, et c'était assez drôle, quoi. Je suis sûr que... Ça fait partie de ces choses qu'on a vécues dans sa jeunesse, qu'il vaut mieux laisser en place, en paix, il ne faut pas les déterrer. C'est comme... Moi, j'ai découvert vraiment une poésie avec Boris Vian, et L'écume des jours, ça a été un choc formidable, et j'ai essayé de le relire il y a peu de temps. Et...
C'est un chef-d'œuvre quand on a 15 ans, c'est
voilà,
bizarre.
Voilà, c'est ça. Hein, et par contre, il a écrit des chansons très belles et des beaux poèmes.
Vos parents, on sait qu'ils étaient artisans, etc. Ils écoutaient de la musique à la radio?
Non, il n'y avait pas beaucoup de musique à l'époque. Non, on écoutait beaucoup, enfin, ils regardaient la télévision. Ils écoutaient la télévision, parce que ça fait partie de ces journées où il y avait tout le temps la télé un peu.
Ah, toujours allumé?
Souvent, ouais, pendant les repas, tout ça. C'est assez déprimant. Mais ma mère avait quelques disques, les valses de Vienne.
Enfin, des voilà. Choses comme
ça. Elle était abonnée dans un endroit où elle recevait des disques tous les mois de grandes musiques classiques. Donc, et mais ça, j'aimais pas trop. C'était les valses de Vienne. Il y avait Casse-Noisette qui me foutait un bourdon terrible. Le lac des Cygnes. Enfin bon, c'est... Et puis on est allé voir les chœurs de l'armée rouge.
Ah voilà, bah ça, quand même. Hein.
Qui était aussi un peu, c'était pas.
Enfin n'empêche que ça vous l'a raconté dans votre dictionnaire de ma vie à l'article acteur, c'est Charles Trenet qui vous a donné la première fois le sentiment d'être un acteur en herbe.
Oui, c'est la première fois que je suis monté sur une scène devant des gens à une distribution de prix. On avait un prof de chant formidable qui nous a fait découvrir. Charles Trenet, c'était la Java du diable. Je chantais trois phrases. Je faisais le député, un député pris par la Java du diable et qui disait deux phrases. Et puis je me faisais tuer puisque c'était 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est mon programme. fermez ce qu'il vous plaît, c'est ce que je disais. Et après, le chœur disait, à coup de fusil enduit la battre, il expira au troisième couplet. Et donc, je mourais sur la scène de la distribution des prix, je crois que c'était à Puteaux ou à Vincennes, je me souviens plus. Et puis bon, alors pour la petite histoire, je suis resté mort. Et j'ai pas voulu me relever.
Vous vouliez plus vous relever, voilà.
Bah non, je crois
vous
vouliez
de vous relever de fin. Vous jouiez votre rôle jusqu'au bout, quoi.
Alors je sais pas si c'était du cabotinage ou de la conscience professionnelle, mais je pensais que étant mort, je ne pouvais pas me relever décemment. Et donc ils ont été obligés de me sortir de scène. Et c'est un souvenir comme ça. C'est ma première. Et j'ai trouvé ça assez marrant d'être sur une scène. J'avais déjà une fausse moustache, une canne. Enfin, je joue un personnage de 66 ans.
Vous ressembliez à Gérard Jugnot
maintenant.
En tout cas, votre livre commence par l'article acteur, mais j'ai lu aussi que, au fond, vous aviez presque voulu être réalisateur avant de vouloir être acteur.
Oui, c'est-à-dire que moi j'ai fait un petit peu l'acteur comme ça dans les trucs, mais ma vraie vocation c'était de faire
tout
des
de suite.
Films.
Hein.
Et j'ai fait des films. D'ailleurs, j'ai fait 5-6 films en double 8 mm.
Double 8 mm.
Et donc, enfin, qui étaient qui sont plus regardables, mais j'avais vraiment envie, je me vivais comme un futur cinéaste, mais bon.
Et c'est votre succès de comédien ou d'acteur qui vous a permis de devenir réalisateur comme vous le souhaitiez au départ.
Après, j'ai rencontré mes camarades, on était au club théâtre, puis j'ai pris goût à l'art dramatique, et à dire des bêtises sur une scène, et à briller sur une scène, et puis, après, on a écrit pas mal de choses ensemble, on a fait des cafés théâtres, et puis, on m'a proposé de faire un film un jour, et j'étais ravi.
Singing in the Rain, vous aimez spécialement la
oui,
comédie musicale
ou
les comédies musicales, celle-là.
Les comédies musicales, mais celle-là, elle est formidable parce qu'elle est, extrêmement drôle, elle est émouvante. Ça parle du cinéma et il y a un numéro justement. Je ne sais pas si vous avez choisi ça, mais Make Them Laugh fait les rires. D'ailleurs, c'est un truc qui me touche profondément. Mais où il y a un numéro de danse acrobatique absolument génial.
Make them laugh, make them laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son. But be a comical one. They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. Or you could study Shakespeare and be quite elite. And you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make them laugh, make them laugh, make them laugh. Make them laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My grandpa said go out and tell them a joke. But give it plenty of hope. Make them roar, make them scream. Take a fall, but a wall split a seam. You start off by pretending you're a dancer with grace. You wiggle till they're giggling all over the place. And then you get a great big custard pie in the face. Make them laugh, make them laugh, make them laugh. Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son. But be a comical one. They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. Or you could study Shakespeare and be quite elite. And you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh.
Fait des rires.
Voilà, Donald O'Connor dans Singing in the Rain, 1952. Vous n'étiez pas bien vieux,
non.
Gérard Jugnot, mais vous l'avez découvert plus tard, comme j'imagine beaucoup d'autres musiques. Et puis, vous l'avez dit, il y a eu donc cette bande qui s'est formée au lycée Pasteur de Neuilly, c'est bien cela, hein, avec vos camarades du Splendide. Il y a eu la fondation du Splendide. Moi, une chose qui m'a toujours fasciné, on en avait déjà parlé avec Michel Blanc et d'autres ici, c'est... Justement, vous parliez de Léo Ferré, de tout ce côté un peu intello de gauche qui était le truc d'une génération. Et en même temps, vous avez pas rompu avec ça, mais de défendre le comique, d'aimer Fernandel autant que la nouvelle vague, etc. C'était quelque chose de quand même singulier quand on avait 20 ans.
Ouais, t'es déjà des vieux cons. Non, mais c'est vrai que nous, on a zappé la nouvelle vague. Hein.
C'est totalement.
C'est un cinéma qui nous a jamais, en tout cas personnellement, qui m'a jamais séduit. Ouais. Je pense qu'il était utile parce que, comme tous les pétards, il faut que ça fasse sauter un peu les lignes. Hein. Mais je trouve qu'il reste pas grand chose de la nouvelle vague comparé à des grands films de Clouseau, de
ah, ça fait plaisir d'entendre ça, mais c'est rare.
De Becker,
de Carnet, de Duvivier.
Oui, Duvivier, autant la rave avant qu'ils deviennent fous. Tout ça, c'est des cinémas. Moi, j'échange.
Mais c'est drôle parce que vous n'étiez pas, justement, vous n'étiez pas des jeunes réacs.
En même j'échange. J'échange toute l'œuvre de Godard contre Quai des Orfèvres ou Les Diaboliques ou La Vérité. Je trouve que c'est des. Mais bon, je comprends aussi que. Il fallait absolument que cette nouvelle vague arrive pour casser un peu, pour virer les vieux et prendre leur place, quoi. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas viré, la nouvelle vague n'a pas viré le Autant la rade, la traversée de Paris. Ils ont viré celui du Franciscain de Bourges ou le Duvivier de Diaboliquement Vôtre et pas celui des grands films de Duvivier, quoi. Mais c'est sûr qu'on avait beaucoup d'admiration pour un certain cinéma de comédie traditionnelle, genre Poiret, Serrault, De Funès, Maillan,
ce qui allait quand même contre l'esprit 68-art qui était celui de votre génération. Et pourtant, je dis, vous n'étiez pas des...
Un peu, oui, c'est vrai. Non, on a suivi le 68. Nous, pendant 68, on a monté des spectacles pendant ce temps-là. Et on n'a jamais été... Enfin, si, mes camarades...
Vous étiez quand même de gauche, tous.
Mes camarades, ah oui, l'ermite et clavier, ils allaient au Parti communiste, ils essayaient de faire de l'entrisme. Bon, ils n'ont pas été longtemps, parce que c'est ce que je racontais. La cellule de Neuilly était obligée de s'occuper des toilettes à la fête de l'UMA. C'est un truc comme ça.
Ah bon?
Donc, en tout cas, on n'a jamais été d'extrême gauche. J'ai toujours détesté les extrêmes, moi, personnellement. Mais bon, on était un grand admirateur de Robert Derry,
Contre-courant, quand même, on peut dire.
Et bien aussi Peter Sellers. Et contrairement à nos amis un peu plus âgés, un peu plus jeunes, pardon, comme les nuls, tout ça, eux qui étaient vraiment influencés par le cinéma américain, nous, c'était plus le cinéma français.
On dit franchouillard quand on n'aime pas.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que Papy fait la résistance, c'est un clin d'œil au Père Tranquille Noël. Donc, moi, j'ai toujours aimé un cinéma relativement traditionnel, ou en tout cas académique, un cinéma d'auteur public, quoi.
Alors, c'est drôle, vous avez cité les Branquignol, qui ont été vos aînés, on peut dire d'une certaine façon. Et je pensais aussi aux Inconnus qui ont un petit peu suivi. Ça, c'était des groupes qui ont quand même fait beaucoup de musique dans leur travail, sur scène, etc. Des chansons, des détournements. Par contre, le Splendide, il y avait très peu de musique.
On en a fait un peu, mais c'est pas resté dans les mémoires. Parce que, bon, Michel...
Pourtant, Michel est un...
Michel
joue bien du piano.
On a quand même chanté dans un spectacle de sketch. Ouais. On a fait deux spectacles où il y a de la musique. Ouais. Il y avait même un spectacle où on jouait de la musique. Clavier et l'ermite jouaient du saxophone, Marianne aussi. Moi, j'étais nul, donc je faisais de la basse sur une lessiveuse avec juste une corde et Josiane faisait de la planche à laver, là. Mais c'était pas très concluant. C'était Michel et Jacques Delaporte qui avaient composé une musique. Et on avait fait un spectacle qui s'appelait Ma tête est malade où chacun chantait une chanson assez parodique. Et moi, je chantais Je suis un loup parmi les loups, je me souviens. Et Blanc, il chantait très bien. L'ermite, une catastrophe. Christian chantait plutôt bien. Et moi, je chantais tout juste.
Tout juste. Bah, vous avez quand même fait, je suis désolé de vous le dire, mais à Radio France, on a des
articles. Bah ça,
vous avez quand même fait un disque, un 45 tours, un petit peu plus tard.
Ah, c'était l'époque où tout le monde en faisait, mais bon.
Ouais, c'est ça, tout le monde en faisait.
Non, notre grand succès, c'était La Complainte du Grutier. Qui avait été composé par Michel Blanc, et c'était sur ma grue, je vois les étoiles, on m'appelle le poète du chantier.
C'est enregistré, non?
Je crois. Rien. Je suis pas sûr que ça existe.
Bon, ben nous, on va quand même écouter, allez, pour le plaisir, pour le souvenir, deux petits extraits des deux faces de votre 45 tours.
Je vais me taper un hamburger. Je mets 3 minutes pour l'avaler et tout le week-end pour digérer. Le seul désir qui était pas cher, c'était de s'envoyer en l'air. Seulement l'herpès fait des ravages et je veux pas être victime du carnage. D'après ce qu'on dit, bientôt les Russes viendraient en char jusqu'à Picpus. Ce sera le début des années noires. Va falloir se mettre au caviar. Moi, les Pershing, les SS-20, rien que d'en parler, c'est la panique. J'ai un abri anti-atomique dans les vieux WC profonds. fond du jardin. C'est très passionné, ça semble complètement miné.
Je suis miné, complètement miné.
Un soir où j'étais un peu speed, j'entrais dans une boîte presque vide où trois danseuses sur une étoile étaient à genoux. Comme elles n'avaient pas de tutu, j'arrêtais pas de mater leur corps. Et ce spectacle sans tarder me fit penser que ce genre de fille, c'est pas mon trip. Mais quand l'une d'elles va me faire une bise, je me dis, ça baigne une heure après rue Pélisset. Alors que j'étais en train de l'attendre, elle vint dardard et prit mon bras.
Gérard Jugnot, 1983, successivement Je suis miné, Le choix dans la date.
Oui.
Ah, oui. Vous n'êtes pas fier.
Oh, non, j'assume. Mais...
non, c'est amusant. Et alors, je vous signale d'ailleurs que dans la deuxième chanson, vous reprenez un grand principe des chansons légères ou érotiques d'avant-guerre, c'est-à-dire on suggère un mot qu'on ne peut pas dire avec les rimes, ou faire dans les connaissances pour ça.
Félicie aussi. Voilà. Coluche chantait ça, c'est le... C'est une jeune fille simple et bonne qui ne demandait rien à personne.
Oui, voilà.
Un jour dans le métro, il y avait presse. Un homme aux âges, je le confesse, lui touchait la main dans les cheveux.
Exactement, voilà. Et ben, vous l'avez fait en 1983, production Monty. Chez Carrère. Vous n'avez pas persévéré dans la chanson, mais en tout cas, par contre, les chanteurs, un certain nombre de chanteurs ont toujours été proches de vous, parce que je pense que après les succès des Bronzés, un petit peu après, quand vous avez fait Pino Simple Flic, vous avez par exemple fait appel à, est-ce que c'était votre ami, ou est-ce qu'il est devenu à ce moment-là Louis Chédid,
pour la musique? Je connaissais un petit peu, mais c'est vrai que j'ai demandé à Louis de faire, j'ai eu plusieurs musiciens de chansons pour mes films.
Ouais.
Alors c'était très agréable. En même temps, c'était pas vraiment des compositeurs de musique de films. Ils me donnaient des thèmes et puis après, il fallait se débrouiller. C'était un peu compliqué. J'ai eu ça avec Louis, qui a fait un très bon générique de Police Secours. Cabrel, qui m'avait fait deux très belles mélodies qu'il a récupérées après pour faire des chansons 10 ans après, parce que c'est quand même une grosse feignasse et qui met très longtemps à écrire. Mais il a fait d'ailleurs une très très belle chanson avec la valse du début de l'époque formidable. Après, j'ai fait appel plus à des vrais musiciens de films.
On y reviendra d'ailleurs, mais en tout cas, la génération des Bronzés, on peut dire, elle apparaît un peu en même temps aussi que la génération des Souchon, des Jonas, etc. Vous fréquentiez, il y avait quelques...
Oui, bien sûr, mais enfin, ils étaient un petit peu plus âgés que nous.
Oui, mais...
Nous, c'est plus Renaud.
Oui,
d'ailleurs, Renaud a fait une chanson pour Fallait pas.
Voilà, justement,
qui est
une très belle chanson.
Très belle chanson qui n'a jamais vraiment été diffusée, ce qui n'a jamais été dans son œuvre complète.
Ouais.
Donc, c'est une chanson qui est très d'actualité, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez retrouvée.
Mais... Oui, on va l'écouter tout de suite. Vous étiez devenu copain comment avec Renaud?
Renaud, lui, il traînait avec les bandes du Café Table, parce qu'il a commencé acteur avec Martin Lamotte à La Veuve Pichard. C'est là où il a rencontré Dominique, là, qui était à l'époque la femme de Gérard Lanvin, qui a divorcé, qui a épousé. Et d'ailleurs, si vous écoutez bien l'œuvre de Renaud, Gérard Lambert, peut-être pas loin de Gérard Lanvin.
D'accord.
Il a réglé ses comptes. Mais non, et donc, moi je le connaissais un peu, et puis j'aimais bien. Il a créé des chansons magnifiques, pas tout. Il y a des choses que j'aime pas trop dans le texte, mais le Mistral gagnant, c'est une des plus belles chansons du monde. Quand même.
Fallait pas, donc c'est pour le film du même nom, hein, en 1996.
Un film sur les sectes, avec... pléiade d'acteurs que j'ai adoré faire.
Qui n'a pas été un de vos grands succès.
Ça n'a pas été un gros succès, mais surtout, c'est un film qui, comme il n'est pas, je ne sais pas où il est dans le catalogue, il ne passe pas souvent, alors qu'il est très drôle. Il y avait quand même Jean-Yann, Martin Lamotte, Michel Larocque, Morel, Pieplu, Micheline Prel, Sophie Desmarais, Jacques Joanneau, enfin vraiment, il y avait une espèce d'international de la comédie. Et...
Puis ça doit être un plaisir quand on commence à être connu de pouvoir inviter ceux qui vous ont inspiré, je pense à Jean-Yann, à Micheline Dax, Prel et autres.
Ah oui, c'était formidable. Et Sophie Desmarais qui était une femme admirable, très, très drôle. Quoi.
J'ai pas inventé l'eau tiède, ni la machine à cintrer, les bananes. Alors forcément ça aide pour te retrouver attifé d'une soutane. Une cagoule du Ku Klux Klan sur ta tête toute pleine de vent, tu te distingues. En faisant brûler de l'encens dans une cave avec des glands, frappe à dingue, fallait pas. Bah ouais, mais je suis comme ça. Je mettre en Jésus un Krishna pour m'éviter les faux pas. Fa et pa. Bah ouais, mais j'ai pas le choix. Je veux un messie, un gourou pour me protéger des coups. Et ben quoi? T'as ton patron, ton petit chef, ta belle-mère, ton percepteur sur le dos. T'as Jésus, Marie, Joseph au-dessus de ton téléviseur en photo. Chacun sa croix, sa bannière, chacun son dieu ou son maître, son Zorro. Moi j'ai trouvé la lumière chez les allumés d'une secte de barjots. Fallait pas. Bah ouais, mais je suis comme ça. Je veux un Jésus, un Krishna pour m'éviter les faux pas. Fallait pas. Bah ouais, mais j'ai pas le choix. Je veux un messie, un gourou pour me protéger des coups. Et ben quoi? Je suis comme ça. Je veux un messie, un gourou pour me protéger des coups. Et ben quoi? Je voyage sans valise sur les chemins de la conscience du grand prêtre. Je veux foutre le feu à l'église, me demande de lui trouver de l'essence, des allumettes. Je veux carboniser ses ouailles et se débiner, j'imagine, si sec. Je vais lui coller une mandale, lui faire passer le goût du crime à ce pauvre mec. Fallait pas. T'as raison mon petit gars. Je veux plus de Jésus, plus de Krishna, et je vais arrêter le yoga. Fallait pas. En fait t'as toujours le choix. Protéger les coups, j'ai mes petits bras. T'as raison mon petit gars. Je veux plus de Jésus, plus de Krishna, et tant pis pour mon karma. Fallait pas.
Fallait pas, Renaud, dans la musique du film éponyme de Gérard Jugnot, qui aujourd'hui, bah, comme réalisateur, vous avez tourné 11 films déjà. Hein, le dernier, oui. Bah, c'était seulement l'an dernier qu'il est sorti. C'est beau la vie quand on y pense. Et les films, donc, je le disais tout à l'heure, qui ont été souvent aussi l'occasion de plonger dans l'histoire. Je pense notamment à Monsieur Batignol et à d'autres. Mais l'histoire, voilà, c'est une passion à laquelle vous consacrez tout un article dans votre livre, dans votre dictionnaire, Gérard Jugnot. C'est une vraie passion pour vous.
Oui, j'aime ça. J'aime la grande histoire et surtout la petite histoire de la grande histoire qui débouche sur des histoires. Voilà. Je trouve que tous les scénarios étaient écrits. Je suis assez passionné. Et surtout, autant, vraiment, ça ne m'amuserait pas du tout d'aller dans le futur.
Ah bon? Non. Des films de science-fiction, c'est pas
non,
pour
ça, vous. Non, ça m'amuse pas du tout. Ça me touche pas. Je suis passé tout à fait à côté de la guerre des étoiles, malheureusement. Mais c'est vrai que repartir pour essayer de comprendre comment les gens vivaient, est-ce que c'était leur mode de vie, de quotidien, ce qui se passe dans leur tête, les odeurs, le truc.
Et à vous raconter, c'est drôle comment le cinéma permet d'une façon très concrète de revivre les choses du passé, en évoquant par exemple dans le film Sans peur et sans reproche, vous démêlez avec votre armure.
Oui, en plus c'était une armure de cinéma, donc elle était très légère. Mais oui, on s'aperçoit quand même, et c'est ça qui est épatant quand on fait du cinéma, c'est que même si on vit pas vraiment les trucs, par exemple quand on vous met un faux explosif qui vous pète dans la jambe pour comme si c'était un impact, il y a une violence, il y a un bruit. Bon, alors, évidemment, heureusement, ça fait pas mal comme une blessure, mais enfin ça. ça se coud, quoi. Et quand vous faites, moi j'ai fait un film sur la guerre de 14 avec les fringues, les vraies fringues de mes grands-pères, vous apercevez quand même que ça devait pas être facile. Et les fusils étaient très lourds, d'ailleurs. Comme il y avait une baïonnette, souvent, Jean-Louis Berck qui avait réalisé ce film m'avait montré tout un arsenal d'armes que les poilus fabriquaient eux-mêmes.
Ah ouais.
C'est d'une violence inouïe, parce que leur fusil faisait 2m20, ils pouvaient pas, c'était pas facile de tuer les gens, hein. Ils avaient construit, fabriqué des casse-têtes.
Et ça, on le sent au cinéma.
Des épées, un truc vraiment, ouais. C'est, en ce moment, vraiment, on replonge dans 14, ça devait être quelque chose de, mes deux grands-pères l'ont fait. Mes oncles aussi, mes grands-oncles. Donc moi, j'étais un peu bercé là. Ils en parlaient peu, mais il y avait quand même le tableau avec les photos et les médailles. Et j'avais un autre cousin, lui, un autre oncle, enfin qu'on appelait Patambois parce qu'il avait une.
Ouais. Et votre jambe en bois, propre fils, voyant votre jambe bandée au cinéma avec la gangrène ou je sais pas quoi, lui, ça l'effrayait comme si.
Oui, ça m'amuse. Ça, je crois que ça l'amuse pas. Et c'est comme moi, ça m'amuse pas. Il a fait un film toi où il mourait. Ça m'amusait pas.
Ah oui.
Bien sûr que je sais qu'il est pas mort puisque je le vois après. Mais il sait que je suis pas mort dans Marthe, mais il sait bien que je vais mourir un jour. Donc il y a c'est assez compliqué.
Mais c'est frappant dans votre livre, c'est va-et-vient entre l'expérience des choses à travers le cinéma et qui renvoie à la vraie
oui,
expérience.
Oui, j'avais traité un peu ça dans Meilleur espoir féminin, cette espèce d'étonnement, d'ahurissement d'un homme simple face à sa fille qui était sur un grand écran en couleur comme ça et qui vivait des sentiments violents qu'elle n'avait pas éprouvés vraiment, mais quand même elle avait été les chercher quelque part. Donc c'est un métier bizarre quand même.
Ouais, ouais. Alors l'histoire, bon, vous avez parlé de la guerre de 14 à l'instant, évidemment l'autre grande affaire française, est-ce qu'elle est d'ailleurs toujours réglée, on ne sait pas très bien, du XXe siècle, c'est l'occupation et c'est évidemment le sujet de Monsieur Batignol qui s'est imposé à vous.
Oui, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours préoccupé. Je me disais, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Comment j'aurais réagi?
En général, chacun pense qu'il aurait été résistant et que ceux qui l'aiment pas auraient été, collabo.
Malheureusement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je pense que si j'avais eu des amis juifs embarqués, j'aurais peut-être réagi. Mais c'est vrai que n'étant ni communiste, ni juif, la vie était pas plus simple. Le monde est un peu fort, mais en tout cas, moins dangereuse, quoi. Donc, peut-être que... Et puis, moi, je fais...
On a envie de se protéger aussi, oui.
Voilà,
c'est ça,
et puis, vous savez, les héros, on s'aperçoit aussi que les héros, ils sont toujours très jeunes. Parce qu'ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants, et c'est plus facile de se lancer dans l'aventure quand on est un peu inconscient, un peu jeune, quoi. Mais c'est vrai que c'est une préoccupation, et c'était intéressant aussi de prendre le point de vue d'un goy, hein, de quelqu'un. Parce qu'il y a eu beaucoup de films là-dessus, sur la spoliation, sur l'occupation et l'extermination, qui étaient faits par des juifs et qui voyaient des choses importantes à dire. Et je crois que c'est aussi important de situer de l'autre côté. De savoir qu'est-ce qu'on aurait fait, comment on réagirait.
En tout cas, dans votre questionnaire de Proust, qui est aussi un article du livre, vous commencez par dire « Votre vertu préférée, le courage physique et moral ». Et après, vous détaillez quelle est la qualité que vous préférez chez un homme, le courage physique, et chez une femme, le courage moral.
Oui, 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 parce que je suis un lâche très courageux.
En tout cas, voilà, Monsieur Batignol, on est, je crois, très très nombreux. Combien de millions à l'avoir vu,
Le film a fait 2 millions en salle, mais surtout, il a fait beaucoup à la télévision. La télévision, c'est important pour les films. Parce que, par exemple, Les Bronzés, on avait fait 2,5 millions, et ça a été vu par 100 millions de gens après.
Et vous êtes allé chercher aussi, pour ce film, dans les chansons d'époque. Alors, il y a notamment Andrex et Fernandel qui sont dans la bande originale.
Et Milton aussi.
Et Milton. On va écouter peut-être cette chanson de Fernandel que j'aime beaucoup, parce qu'il sait tellement bien dire les mots en musique que c'est assez fascinant. Elle a tout ça.
Par une belle enfant, je suis troublé, mais je n'ose pas lui en parler. Je suis intimidé par ses appâts, car je me dis, n'est-ce pas? Elle a tout ça, et moi je l'ai pas. Des trucs ici, des machins là, du rouge aux joues, du noir aux yeux, et des rubans dans les cheveux. J'en suis jaloux, mais en tout cas, tout ce que m'a donné mon papa, mon corps d'athlète, etc. Moi j'ai tout ça et elle l'a pas. Elle habite en face de chez moi.
Et l'autre soir, oh quel émoi, je l'ai aperçue en combinaison et j'ai pensé crénom.
Elle a tout ça et moi je l'ai pas. Des dentelles et des falbalas,
des pantalons tout plein de festons et des mignons soutiens tétons. J'en suis jaloux, mais en tout cas, mes caleçons qui vont jusqu'en bas pour cacher les poils de mes tibias.
Moi j'ai tout ça et elle l'a pas. Mais je suis devenu son petit mari. Et c'est curieux ce qu'elle a grossi. Et quand elle se plaint du mal au cœur, je me dis y'a pas d'erreur. Elle a tout ça et moi je l'ai pas. Des petites douleurs à l'estomac, des envies de fraises et de nougat, de beurre et de rutabaga. On ne perd pas de temps à la maison, on a deux filles et un garçon. Elle est maman, je suis papa. Et tous les deux on a tout ça.
Et c'était donc Fernandel dans la bande son de Monsieur Batignol, film de Gérard Jugnot qui est avec nous ce matin. Et Gérard Jugnot qui n'aime pas jeter un regard manichéen sur des époques complexes comme celle de l'occupation. Hein.
Mmh. Oui, c'est pas simple.
C'est pas simple. vous évoquez d'ailleurs dans votre dictionnaire de ma vie, par exemple, Sacha Guitry, évidemment immense artiste, bon, qui a été sévèrement attaqué après la guerre pour ce qu'il a fait sous l'occupation. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de théâtre en particulier.
Il a été, comment dire, acquitté, enfin...
Oui, absolument. Mais...
Non, mais surtout, il était une grosse vedette internationale. Il faisait beaucoup de tournées en Allemagne. Et beaucoup d'acteurs, d'ailleurs, allaient tourner en Allemagne dans les doubles versions, dans les studios de Berlin. C'était pas simple. Et c'est aussi le syndicat des
ce que vous expliquez, oui.
Qui l'ont supplié de rouvrir son théâtre.
De rouvrir son théâtre.
Théâtre puisse rouvrir et que les acteurs puissent vivre. Alors, c'est vrai que, bon, il a pas fait de pied à part, ce film sur Pétain, la gloire de Pétain.
Oui, ça, c'est pas ce qu'il a fait de mieux.
En même temps.
De Jeanne d'Arc à Philippe Pétain.
Oui, c'est ça. Dans ce film de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, il citait Sarah Bernhardt et les Allemands ne voulaient pas qu'on le cite et il s'est battu pour qu'elle soit là et qu'elle reste.
Qu'elle soit citée dans son film.
Citée dans son film. Bon, ça, il n'était pas un grand résistant. Et puis évidemment, comme il faisait les vaudevilles charmants, il y avait beaucoup d'Allemands qui venaient au théâtre se détendre puisque la France était quand même le lupanard de l'Europe. Des historiens disent que si on n'avait pas signé l'armistice, les Allemands n'auraient pas pu venir se reposer, se détendre. Il y aurait eu un autre front et peut-être que la guerre aurait duré moins longtemps. Mais, on va savoir.
En tout cas, l'histoire de France vous passionne, les années 30, dans Faubourg 36. Même si ce n'est pas un film de vous, on l'associe beaucoup, évidemment, à vous. On va revenir dans un instant. Les années 40 dans Monsieur Batignol, les années 50 aussi. Et,
j'ai fait un film sur l'Inquisition, j'ai fait un film aussi sur le Moyen-Âge.
Oui, mais pour rester à la guerre, il y a une période qui, alors, vu votre regard sur la complexité des choses, qui pourrait être intéressante aussi, c'est la fin de la guerre.
Oui, l'épuration. Oui, parce qu'en fait, la fin de la guerre n'est pas une fin de guerre, puisque on s'aperçoit maintenant... moi, j'avais été surpris, parce qu'on m'avait demandé de faire un documentaire sur mes années de naissance, dans les années 50, et j'allais partir sur la paix retrouvée et tout, et en fait... Le monde était dans un chaos absolu. Parce qu'on ne peut pas non plus comprendre la guerre de 40 sans comprendre la mauvaise feuille de 1918 et la guerre de 40 sans la montée du bolchevisme en Allemagne et en Russie, enfin, et même en Europe, quoi. Donc tout ça est très, très compliqué. C'est cette espèce de guerre froide qui a succédé à la guerre de décolonisation. Enfin, c'est un bordel absolu.
Ça va continuer, j'espère. Ouais. À nous éclairer sur tout
oui,
ça.
Oui, non, mais ce qui m'intéresse, c'est de dire que. C'est pas simple, quoi.
C'est pas simple, voilà. Alors, évidemment, cette émission, quand même musicale, on pouvait pas ne pas évoquer les choristes. J'avais des scrupules parce que, quelquefois, quand il y a des succès tellement, tellement énormes, ça agace un peu les artistes qu'on les ramène toujours à ça.
Mais
je vois que vous en parlez d'autant plus volontiers que vous lui avez même consacré lui aussi un article, bien que ce soit pas un film de vous. Vous étiez quand même coproducteur.
Oui, je me suis beaucoup engagé dans le film, mais
ouais, c'est
un film auquel on on est parti comme ça, on n'y croyait pas plus que ça. Enfin, moi, j'aimais bien le sujet, mais la musique a transcendé, et puis la voix magnifique de Petit Monnier, c'est, ça a été énorme. Et c'est là où je me suis aussi aperçu de l'importance de l'émotion qu'apportait la musique.
Ouais. Et, vous n'êtes pas allé jusqu'à chanter dans le film.
Hein. Non, heureusement. Non, je chante dans Faubourg 36, c'est pas très bien d'ailleurs.
On va l'entendre.
Mais, non, c'était vraiment quelque chose d'étonnant et surtout le succès était tellement énorme dans le monde entier que oui, c'est un film qui me tient à cœur, bien sûr. Quoi. Voilà.
Christophe Baratier, avec qui vous avez donc fait ensuite Faubourg 36.
Oui, j'en ai fait trois avec Christophe et La Guerre des Boutons aussi. Je fais.
Voilà, et on va écouter deux extraits justement des choristes et de Faubourg 36 avec le môme Jojo et la voix de Gérard Jugnot avec Cadmérade et Clovis Cornillac.
Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains.
C'est lourd pour lui, paraît que ça coûte une fortune.
Ces lieux ne sont pas le roi Louis, mais du moment que ça gagne des thunes.
Alors adieu aux heures de classe,
il joue partout course et la boire.
Les doubles croches, il les défroisse, toutes les portées sont ses devoirs.
Le môme Jojo, il ira loin,
il a des doigts pour ce turbin.
Plein de mémoire précis et fin,
le môme Jojo il ira loin.
Quand il sera un vrai champion,
une grande marque d'accordéon
lui gravera sur l'instrument
son nom qui brillera tout le temps.
Rue des Couronnes, Julien Lacroix, il fait pleurer les ménagères.
Elle lui balance 10 francs parfois dans du journal machin dernière.
Alors adieu aux heures de classe,
il joue partout course et lavoir.
Déjà il gagne assez d'argent pour le gigot haricot blanc.
Le môme Jojo, il ira loin,
il a des doigts pour ce turbin.
Plein de mémoire précis et fin,
le môme Jojo, il ira loin.
Quand il sera un vrai champion,
une grande marque d'accordéon
lui gravera sur l'instrument
son nom qui brillera tout le temps.
Faubourg 36, avec ce Paris qui nous fait un peu rêver d'ailleurs dans le film, reconstitué, ce Paris populaire, ce Paris des théâtres, ce Paris de l'accordéon. Ici, c'est Éric Bouvel qui joue avec vous d'ailleurs, donc Gérard Jugnot, puisqu'on vous entendait chanter. Bon souvenir, Faubourg 36,
oui,
le monde du
tourné,
théâtre.
On
le
a
monde...
tourné ça, bon, il sortait les corridors, donc Christophe Baratier est parti sur ce projet pharaonique. On avait reconstruit tout ça dans un champ de betteraves près de Prague. Un truc énorme.
Ah oui, le théâtre,
tout le théâtre, c'était dans un autre
et
endroit,
le quartier,
mais tout le quartier en, ah oui. Qui faisait, je sais pas, ça devait faire un kilomètre
le carré, faubourg,
c'est,
comme
c'était
insensé
avec
le
des
film.
Montées des, ouais. Toute la ville là, c'est entièrement le studio, et c'était absolument formidable de tourner ce truc, même si le film part un peu dans tous les sens. Il y a trois histoires, mais il y a des belles choses dans
il y a des belles choses, et puis il y a l'accordéon, merveilleux instrument du Paris populaire de Belleville où vous êtes né d'ailleurs, hein,
ouais.
Même si vous avez grandi en banlieue. Gérard Jugnot, j'ai remarqué aussi que d'un film à l'autre, alors dans vos films en particulier, particulier, il y a des grandes fidélités et il y a notamment une fidélité à un musicien qui s'appelle Khalil Shaheen, qui depuis, je crois, 1996, justement, Fallait pas jusqu'à C'est beau la vie quand on y pense, il est dans beaucoup de vos films.
Ouais, et puis même dans La raison d'aimer, il nous a fait une petite musique jolie là pour la pièce. Je veux dire qu'il a, il m'a apporté beaucoup de choses dans le rapport musique-image et ça a commencé sur Fallait pas, je crois. Et j'ai toujours beaucoup aimé faire de la musique dans les films.
Mais lui, c'est un fou des musiques du monde aussi.
Oui, oui, il mélange tout. Lui, sa mère est américaine, son père était un égyptien. Après, sa mère a vécu en Allemagne. Enfin, c'est un type que, oui, c'est world music, quoi. Mais, mais c'est un type assez formidable, qui joue un grand guitariste, qui fait des disques un peu. Il vient de sortir un disque, là. Un disque un peu world music, enfin, un peu jazzy. Mais
vous aimez bien le retrouver quand vous faites un nouveau film?
Il a fait la musique de Fallait pas. Il m'a fait de l'accordéon dans la
Ah oui, il s'adapte aussi au
sujet. Oui, il s'adapte, voilà. Et puis il connaît, il va chercher les mecs. Non, c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler.
Voilà, Khalil Shaheen, qui effectivement, vous l'avez dit, a aussi fait des musiques de scène pour la pièce que vous jouez en ce moment, la pièce d'Isabelle Mergo, La raison d'aimer.
Que j'ai mis en scène aussi.
Voilà, La raison d'aimer. Alors, je le précise parce que moi, je me suis trompé. J'ai cru d'abord que ça avait un rapport avec Marcel Aimé. Ça n'a rien à voir avec Marcel Aimé. C'est le nom du héros, hein.
Oui, ça s'appelle Aimé Gachassin. Aimé. Oui, voilà. Mais c'est une dualité entre le cœur et la raison. Une pièce très, très amusante qui, on joue ça jusqu'au 6
C'est aussi une fidélité, Isabelle Mergo.
Oui, elle avait écrit avec moi un meilleur espoir féminin. Voilà. Et c'est quelqu'un qui écrit à la fois des choses très, très drôles.
Oui.
Parce que la pièce est vraiment très drôle. Et puis des choses aussi, qui dévoile une certaine gravité, comme dans Meilleur Espoir, et même dans la fin de cette pièce où il y a des beaux silences.
Vous aimez bien retourner au théâtre et même faire éventuellement des très longues séries quand on
fait une pièce. Je joue pas souvent, mais j'aime bien jouer longtemps.
Ouais.
Je trouve que c'est là où on prend du plaisir. Enfin,
vraiment? Ah oui, en y allant tous les soirs, au bout d'un mois, deux mois, on y prend plus en plus de plaisir.
6 mois.
Hein. Ouais, 6, voilà.
On est à la 180e et on va finir à 350, mais.
Et jamais vous dites j'en ai marre.
Si, tous les soirs. Mais une fois qu'on y est, les gens sont là et puis jouer de la comédie, il y a des enjeux tous les soirs. Il faut, faut faire rire les gens à des moments précis et on n'y arrive pas tout le temps. Donc, c'est comme un 110 mètres 1000 haies, quoi. Il faut sauter les haies. Et de temps en temps, on en fout en l'air. On ne sait plus pourquoi on s'est pris le pied là. Pourquoi ça? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a toussé, qu'on n'a pas eu la patate pour le jouer. C'est très franchement, la semaine dernière, il y avait une salle un vendredi. Les gens ont beaucoup aimé, mais ils étaient très calmes. Ils riaient beaucoup moins que d'habitude. Ils applaudissaient pas quand on rentrait, comme on le fait au boulevard. Donc, on était très troublés.
Ouais.
Et à la fin, ils ont applaudi. Et puis, j'ai des amis de la salle qui me disent, les gens étaient ravis. Tout. Et puis, le lendemain, on soulevait un sourcil. Ils étaient morts de rire. Donc, et c'est la même pièce. Donc, il y a des choses comme ça magiques qui appartiennent au théâtre vivant. Par définition, et un film, c'est toujours le même. Quoi.
Alors ça, c'est La raison d'aimer, donc c'est en ce moment toujours au Théâtre des Nouveautés, mis en scène par Gérard Jugnot, la pièce d'Isabelle Mergo. On va évoquer quand même, avant de se quitter, un petit peu vos goûts en matière de musique classique aussi, Gérard Jugnot, et on va écouter, pour commencer, une pièce que vous citez souvent, j'ai remarqué, quand on parle de musique classique, c'est La pavane de Forêt.
Ouais, moi, j'adore la musique française. Thank you.
La pavane de Forêt sous la direction de Jean Fournet. La pavane que vous utilisez d'ailleurs, Gérard Jugnot, dans Boudu,
oui.
Votre film...
adapté de la pièce, pas du
de
film.
La pièce dont Renoir lui-même avait tiré Boudu sauvé des eaux.
J'en ai entendu dire comment ce franchouillard s'attaque à ce chef-d'œuvre qui n'est pas d'ailleurs un chef-d'œuvre, je le dis.
Non mais Jean Renoir, tout a été considéré comme un chef-d'œuvre.
C'était un film de commande que lui avait demandé Michel Simon, et à part Michel Simon, le film était pas...
Renoir a toujours eu la cote, même quand la nouvelle vague attaquait le cinéma de cette époque-là, Renoir était toujours intouchable.
Oui, alors qu'il a parfait qu'il ait... il s'est pas comporté toujours très bien dans des moments périlleux.
Enfin, vous avez fait Boudu avec la pavane.
Absolument.
En particulier.
Et c'est la pavane qui est une musique funèbre.
Ouais.
Et d'une grande gaieté et d'une grande sérénité. Moi, j'aime cette musique parce qu'elle, moi qui suis pas un rassuré de nature, un calme, je trouve que c'est une musique comme ça, Ravel, Debussy, il y a quelque chose d'absolument, d'une grande clarté, d'une grande sérénité.
Mais j'ai vu d'ailleurs, vous, alors, de même qu'au cinéma, hein, vous avez cité tous les grands cinéastes français du XXe siècle, mais en musique, vous êtes vraiment très musique française. Hein.
Ah oui, oui, ouais. Oui. Je dis, j'adore Barber.
Non, bien sûr, mais il y a justement quelque chose de lumineux et
oui,
de pas torturé dans la musique française.
Oui, c'est sûr que c'est les musiques d'avant... Forêt, ça était avant 14, non?
Ah oui, enfin, la pavane, en tout cas, elle est avant 14.
C'est avant les grands traumatismes.
Du XXe siècle.
Du XXe siècle, on est loin de Xenakis ou de...
Oui, ça, c'est des musiques d'après Hiroshima, comme on dira, ou d'après la Shoah.
Même, moi, je suis très à l'écoute, j'ai essayé d'écouter Ligeti. C'est compliqué, hein. C'est pas facile. Hein. C'est
dans 2000 ans, Odyssée de l'espace, il y a des passages qui sont pas mal.
Mais c'est vrai que c'est plus des musiques d'accompagnement qu'écouter tout ça. Enfin, c'est bon.
Vous êtes très mélomane, finalement?
J'aime toute la musique. Moi, c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique et j'aime beaucoup la musique, la grande musique, comme on dit, la musique classique. Et je trouve qu'il y a...
Vous allez au concert?
Pas assez, mais l'autre fois, on m'a demandé d'aller... j'ai un ami qui fait ça dans une chapelle. Il a organisé des concerts avec des chanteurs. À chaque fois que j'y vais, je me dis, mais quel con, pourquoi je n'y vais pas aussi souvent? J'ai été voir quelques opéras quand j'étais à Aix et tout. C'est vraiment magnifique.
Et l'opérette, alors ça c'est très français. Ça pourrait être très Jugnot aussi.
Oui, j'ai jamais donné à ça, mais c'est vrai que les opérettes... Bon, on allait voir les opérettes un peu...
Quand vous étiez petit?
Oui, ouais. Avec Coluche, on est allé pour se moquer un peu. Quoi,
avec Coluche?
Oui, Coluche allait beaucoup voir au Châtelet, à l'époque
Lopez
du Châtelet.
Lopez et tout ça?
Oui.
Et vous ricaniez?
Rudy Rigoyen, je ne sais pas comment. Et les Trois Mousquetaires.
Irigoyen.
Il y avait D'Artagnan, le mec qui chantait tous les 5 minutes. « Je suis D'Artagnan de Gascogne !» Et c'était, on y allait pour rire un peu. Mais il y avait quelque chose de rigolo, mais c'était pas la grande époque. La grande époque, c'était quand Bourville avec
avec Annie Cordy,
Mariano ou
Guettari. Et puis là, encore plus grande époque, c'était quand même Offenbach.
Absolument. Là, c'est de l'opéra bouffe même. Là.
Voilà. Vous pourriez jouer Ménélas, hein. Beaucoup d'acteurs l'ont fait.
Les Poux de la Reine, oui, mais oui, c'est vrai.
On vous l'a proposé, non?
Il y a une époque où on m'a proposé de faire un truc comme ça. Et puis, non, je n'ai pas l'organe.
Vous n'avez pas l'organe, mais on va quand même écouter l'immense bacchanal de la belle Hélène.
C'est une immense bacchanale, et Vénus Astarté anime la ronde infernale, tous tes plaisirs et voluptés, vertu, devoir, honneur moral, par le flot tout est emporté. Tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Je comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Allons, immole-toi. Allons, immole-toi. Il faut subir la loi. Il faut subir la loi. Immole-toi, immole-toi. Il chancelle. À peine il respire. J'expire. Aux gens humains, il faut rendre service. Immole-toi quand tu devrais souffrir. Sauvera par ce beau sacrifice les ménages de l'avenir.
Aux genre humain, pour toi rendre service. M'immole et non, ça me ferait souffrir.
Sauvera par ce beau sacrifice les ménages de l'avenir.
Des dieux l'immortelle sagesse me réserve un drôle d'emploi. S'il en faut un à la déesse, pourquoi faut-il que ce soit moi? Son mari devrait lui suffire.
Il blasphème dans son délire. Il blasphème dans son délire. Il blasphème dans son délire. Ah, ah, ah.
Willy Clément, Michel Roux et Duvalex, le fantaisiste qui joue le rôle de Ménélas ici, dans La Belle Hélène, sous la direction de Jules Gressier. Gérard Jugnot, fantaisiste, c'était un beau métier. Hein.
Oui, non, je voulais préciser aux gens que j'aime aussi les chanteurs vivants.
Ah oui, j'aime beaucoup. Ça s'arrête pas en 1953 non, ou 51.
J'aime beaucoup Benabar, c'est vrai. Chris Andequin ou Muse, mais parce que là, ça, je passe quand même pour un...
Ah non, mais c'est l'émission qui veut ça, oui. Je vous rassure. Non, non, ici on adore, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, bah, écoutez Gérard Jugnot, je ne peux que recommander votre livre qui vient de sortir, Le Dictionnaire de ma vie, avec encore beaucoup d'autres articles hein, sur l'intimité, sur les kilomètres, sur le loto, sur le théâtre, vaste sujet.
Oui, c'était assez amusant, pas de se dévoiler, mais en tout cas de donner un peu son avis sur certains petits trucs, quoi. Et puis d'écrire. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça.
Voilà, avec aussi des réflexions sur notre époque. Vous dites, vous aimez les chanteurs d'aujourd'hui, mais vous vous intéressez aussi à votre époque. Pas toujours de façon extrêmement optimiste. Il y a des choses qui vous font peur, qui vous déplaisent.
C'est compliqué, en ce moment. Vrai que là, on est dans une période difficile. Mais bon, en même temps, vous savez, moi je disais ça, je me souviens, je parlais de ça avec Gérard Horry. Je disais, pour les jeunes, c'est pas facile. Il y a le chômage, il y a le sida, et c'était il y a 15 ans. Et il me disait, tu sais, moi, à 20 ans, on m'a dit, t'as plus le droit de vivre. S'il était juif. Et donc, c'était pas forcément simple de vivre en 40. Donc, je pense que...
Ouais, vous expliquez bien aussi qu'une rage dedans, c'est quand même mieux aujourd'hui que...
Qu'en 1495.
En 1495.
Ça, c'est sûr.
Et ça, moi qui suis un peu passéiste, tout d'un coup, j'ai vu la lumière dans cette phrase.
Non, mais moi, c'est pour ça que si je vous êtes, alors j'adorerais voyager dans le passé, mais avec ma trousse à pharmacie et mon médecin personnel. Mais, vous savez, les choses, regarde, on dit beaucoup là, oui, les comics sont vulgaires, c'est grossier. Enfin, faut pas non plus oublier que en 1900, les gens se précipitaient habillés en smoking pour aller écouter le pétomane.
Le pétomane, oui. Par contre, aujourd'hui, ce qui vous agace parfois un peu, c'est l'humour qui devient très politique et parfois un peu moralisateur aussi. Hein,
oui,
aussi
ça, les gens qui commencent...
L'humour bien pensant.
Oui, les gens qui pensent qu'ils ont un message et qu'il y a que qui... Enfin non, ou des gens qui disent « je dérange ».
Ah oui, c'est ça. Oh, tout le monde aime déranger.
Voilà, c'est ça. Non, ça me... Les gens qui donnent des leçons m'énervent beaucoup. En tout cas, il faut toujours essayer d'être... Bon, c'est le côté en même temps, hein, comme dirait notre président qu'on prend plein la tronche en ce moment.
Et si on se quittait avec Georgius, qu'est-ce que vous en diriez?
C'est rigolo.
Gérard Jugnot.
Il a écrit plus de 5000 chansons, Georgius. Ouais, et les gens l'ont oublié. En plus, c'était des gens qui chantaient sans micro.
Ouais.
Donc, il y a une manière de chanter, comme ça, tout dans le masque, qui est assez rigolote, avec des chansons complètement connes et complètement démentes. Mais bon, je pense que... Après, il y a eu Bobby Lapointe qui a repris ça.
Exactement, qui a repris la lignée. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gérard Jugnot, ce matin, pour évoquer votre vie en musique et votre livre, Le Dictionnaire de ma vie.
Élève la bilure. vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez dix. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, battit les Chinois un soir à Roncevaux. C'est lui qui lança la mode des slips et pour sa mourue sur un échafaud. Le sujet est neuf, bravo, vous aurez neuf. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papille, au lycée papillon. Élève Podaran. Vous connaissez bien l'histoire naturelle. Eh bien, dites-moi ce qu'est un ruminant. Et puis, citez-moi. Et je vous rappelle que je donne 10 quand je suis content. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Les ruminants sont des coléoptères tels que la langouste et le rat à dégoût. Le cheval de bois, le poule à belle-mère qui bat sur sa proie et puis cavale tout. Très bien répondu, je vous donne 8, pas plus. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon. Élève Troufigne. Vous connaissez bien la géographie. Eh bien, citez-moi les départements, les fleuves et les villes de la Normandie, ses spécialités et ses représentants. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. C'est en Normandie que la Moselle, capitale Béziers et chef-lieu Toulon. On y fait le caviar et la mortadelle, et c'est là que mourut Philibert Besson. Bravo mon ami, je vous donne 9,5. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon. Élève Canquerelat.
Présent.
Vous êtes le dernier, ça me rend morose. Je vous vois dans la classe, tout là-bas, dans le fond. En philosophie, savez-vous quelque chose? Répondez-moi oui, répondez-moi non. Monsieur l'inspecteur, ben je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Et puis comme plus tard, je veux devenir ministre, moins je serai calé, plus j'aurai de valeur. Je vous crie bravo, mais je vous donne 0. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon.
Mon excellent camarade Georgius avec l'orchestre de Joe Bouillon, c'était évidemment le lycée Papillon en 1936 et c'était un choix de mon invité. Aujourd'hui donc Gérard Jugnot qui est au théâtre dans La Raison d'Aimer et qui vient de publier le Dictionnaire de ma vie aux éditions Kéro.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais pour bien terminer cette émission, eh bien nous allons maintenant retrouver notre ami Serge Laïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Je suis heureux de vous retrouver parce que je sais que vous devez nous parler ce matin de Paul Mauriat. Alors je pensais que vous alliez tout m'apprendre sur lui, mais figurez-vous qu'entre-temps, je suis tombé sur un livre où il y a des 14 pages sur Paul Mauriat. Je sais tout sur lui déjà, vous n'avez plus besoin de vous.
Je peux m'en aller là.
Oui, ça s'appelle Les Arrangeurs de la chanson française.
C'est de
Serge Laïc,
ah bon
aux éditions textuelles. Ça vient de paraître.
Ah oui, absolument.
On en a parlé la semaine dernière.
Merci Benoît. Oui, alors donc je vais vous parler de Paul Mauriat. C'est un chef d'orchestre vraiment à la destinée qui a été hors norme. Il était né en 1925 à Marseille, tout à côté de la rue où était né, fait du hasard, le célèbre Franck Pourcel. À une rue de lui, il y avait aussi Franck Pourcel qui était né quelques années plus tard. Alors, Paul Mauriat, tour à tour pianiste de divers orchestres du sud de la France, c'est au cœur des années 50 qu'il réunit sa propre formation qu'il dirige à Marseille, au Dancing Le Vamping, où plus tard se révéleront d'autres chefs comme Christian Grubert, dont on avait parlé il y a quelques mois, ou Guy Matteoni. Monté à Paris en 1958, eh bien Mauriat est engagé par Eddie Barclay, tout simplement, qui saisit aussitôt le formidable potentiel du jeune musicien Moria et il lui propose d'arranger et d'accompagner Léo Ferré dans Paname et Joli Môme, deux bijoux incontournables.
T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou, faut se la faire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon, qu'on violente et c'est bon, joli môme.
Joli môme, l'orchestre de Paul Mauriat. Tiens, je parle toujours de Jean-Michel Defay pour Léo Ferré, mais c'est vrai que eh bien, oui. Serge Elhaïc, que Paul Mauriat était là donc avant Defay en 1960. Defay.
Tout à fait. Alors ensuite, ce n'est pas le fait du hasard si Charles Aznavour choisit Paul Mauriat pour l'accompagner dans la première moitié des années 60, avec à la clé les somptueuses versions de Je me voyais déjà, Les Comédiens, La Bohème, La Mama, tant d'autres. Alors, lors des concerts d'Aznavour, le public pouvait reconnaître les chansons dès leurs premières notes grâce aux introductions ciselées par Paul Mauriat. Charles Aznavour nous avait confié ses souvenirs.
Barclay m'a dit, pour ton premier disque, je vais te donner trois noms, tu vas choisir celui que tu veux. Les trois noms étaient Michel Legrand, Quincy Jones et Paul Mauriat. Je ne connaissais pas Paul Mauriat, je connaissais Michel et Quincy, mais j'avais envie quelque chose de neuf. J'avais besoin d'un son neuf. Et j'ai dit, je vais prendre Mauriat. Et c'est Mauriat qui a trouvé donc ce son qui a été le mien pendant des années. Dans les orchestrations que j'ai de Paul Mauriat, on ne peut pas les changer. Que ce soit la bohème ou autre, on peut ajouter une petite chose, mais on ne peut pas les changer. Ce qui fait que j'ai été formidablement soutenu et servi par le travail de Paul.
You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my désir. Désir, désir, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable.
Charles Aznavour avec l'orchestre de Paul Mauriat, qui a été, on peut dire, donc le grand arrangeur d'Aznavour, hein, Serge Elhaïc.
Complètement, avant que Christian Gobert, par exemple, prenne le relais juste après. Voilà. Alors, Paul Mauriat et l'autre chef, Raymond Lefebvre, eh bien, tous les deux avaient scellé en 1961 une association professionnelle étonnante, puisqu'ils composèrent de très nombreux indicatifs, comme le fameux générique d'Interville, mais aussi la musique de la chanson culte que tout le monde connaît, Douliou Saint-Tropez, du fameux film. C'est Mauriat Lefebvre qui ont composé cette
gendarmes.
Musique. Tout à fait, les gendarmes, le gendarme de Saint-Tropez. Alors, c'est cette fois en compagnie de Franck Pourcel et de Raymond Lefebvre qui étaient très amis donc avec Paul Mauriat. Et les trois, Lefebvre, Pourcel et Mauriat, composent Chariot, tube planétaire chanté entre autres par Petula Clark et entendu plus tard dans le film Sister Act, musique reprise également par de grands orchestres comme l'américain, comme celui de l'américain Percy Faith.
Chariot par l'orchestre de Percy Faith, un grand tube donc co-composé par ces trois copains inséparables, vous l'avez dit.
Tout à fait, ils étaient tout le temps ensemble, tous les jours.
Raymond Lefebvre, Franck Pourcel, Paul Mauriat dont on parle aujourd'hui. Encore que le titre est signé par d'autres noms.
Oui, Del Roma et Stoll, c'était des pseudos de Pourcel et de Paul Mauriat.
Voilà, ça c'était en 1963.
Alors, Paul Mauriat a habillé la voix des grands de la chanson française, comme Guy Béard, comme Daniel Darieux, Jean Sablon, Henri Salvador ou Mireille Mathieu, pour qu'il signe à la musique et l'arrangement du fameux « Mon credo ». Alors, nous écoutons Mireille Mathieu annoncer Paul Mauriat à l'occasion d'un concert à l'Olympia. Et juste après, de son côté, Paul Mauriat se souvenait des débuts de Mireille, à laquelle il avait offert son talent, à la demande de Johnny Stark, le manager de Mireille.
Permettez-moi de vous présenter mon grand ami, le chef d'orchestre, Paul Mauriat, qui m'accompagne avec le grand orchestre de l'Olympia.
Je vais voir un spectacle à l'Olympia en fin 65 pour mon ami Serge Listel. Mireille se trouve sur scène et j'ai vraiment un coup de foudre. Et je me suis dit, j'accepte. Parce qu'on m'avait demandé auparavant de l'accompagner. Et dans la nuit, j'ai composé mon credo et j'ai dit à Stark, je suis d'accord pour travailler. Mireille, travailleuse, elle est toujours présente et toujours prête à apprendre quelque chose. Ça, c'est une qualité énorme. Alors, elle a une voix extraordinaire, elle est belle, elle a, comment dirais-je, elle a l'éclat dans les yeux, dans la façon de chanter. Ça aurait pu durer longtemps, mais à partir du moment où j'ai eu la chance d'avoir un numéro 1 avec Love is Blue, j'ai été obligé de ne plus travailler ni avec Mireille, ni avec personne d'autre. Il fallait que je m'occupe de moi.
D'amour. Oui, je crois que la mienne commence à partir de ce jour. Oui, je crois à tous les mots d'amour que tu inventes pour moi. Oui, je crois tout ce que tu me dis parce que je crois en toi. Aussi vrai que tes yeux sont ma seule lumière, aussi vrai que ma vie tient au fil de nos joies. Oui, je crois que mes jours n'attendaient qu'un mot d'amour de toi. Je crois que tout l'amour du monde est là quand tu es près de moi. J'y crois chaque fois que tu m'ouvres tes bras.
Premier très grand succès de Mireille Mathieu en 1966, Mon Credo, composé donc par Paul Mauriat. Serge Lahic, vous savez que vous tombez bien ?
Oui, bah je sais.
Oui, parce que la semaine prochaine, mon invité, c'est Mireille Mathieu. Je suis très très heureux de la recevoir samedi prochain dans Étonnez-moi Benoît.
C'était un apéritif aujourd'hui. Voilà, alors Paul Mauriat a su garder la tête froide malgré le succès mondial qu'il obtiendra en 1968 avec Love is Blue, L'amour est bleu.
Il l'évoquait à l'instant.
Tout à fait. Oui. Et il était classé numéro 1 au hit-parade américain pendant 5 semaines devant les Beatles.
Composition d'André Pop.
Composition d'André Pop, merci de le rappeler. Phénomène unique et je ne crois pas que ce soit reproduit. 5 semaines au numéro 1 pour un Français. Paul fut ensuite une véritable star au pays du soleil levant, adulé lors de ses 1200 concerts avec des millions de Japonais qui l'écoutaient. Et il quittera la scène en plein succès en 1998. C'est devant son piano qu'il avait évoqué la construction musicale de son tube « Love is Blue ».
Bonjour. J'ai eu l'idée de trouver quelque chose qui sonne différemment.
Il y a un instrument très ancien qu'on n'utilisait jamais dans les variétés, c'est le clavecin. Et quand on a fait Love is Blue, j'avais cette phrase, ce qu'on appelle un gimmick de guitare. Et au dernier moment, j'ai ajouté le clavecin. Tout le monde pense que c'est à cause de ça, ça a accroché l'oreille tout de suite.
Le succès mondial d'André Pop et Paul Mauriat dont vous nous parliez ce matin. Serge Laïc, Paul Mauriat qui nous a quittés il y a maintenant déjà un moment.
Déjà 12 ans, il est décédé en 2006 et à sa façon, vraiment, il fut l'ambassadeur de la culture musicale française sur toute la planète.
Vous lui avez d'ailleurs consacré un livre.
Et oui, et alors là, je peux vous dire que de mon côté, je n'oublierai jamais la confiance absolue qu'il m'avait donnée, Paul, pour écrire Une vie en bleu, le roman de sa vie.
Voilà. Et puis pour en savoir plus, vous pouvez aussi, évidemment, chers auditeurs, consulter l'indispensable Les arrangeurs de la chanson française de Serge Laïc aux éditions textuelles. À bientôt, Serge.
Merci, Benoît, et à très bientôt.
Ainsi s'achève Étonnez-moi, Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Adeline Omello et Valentin Bobineau, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec donc mon invité Mireille Mathieu. D'ici là, bon week-end à tous.
À réécouter sur francemusique.fr.